Bonjour professeur Azoulay, vous êtes PUPH et chef de service en réanimation médicale à l'hôpital Saint-Louis et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la communication avec les familles des patients admis en réanimation. Première question, comment conduire un premier entretien avec une famille d'un patient en réanimation?
Alors c'est une question importante. Dans votre question, il y a deux questions, il y a comment et quand. Et en fait, il est habituel d'avoir une information qui est apportée en trois morceaux. La première, c'est une fois que le malade arrive en réanimation, il faut au moins voir la famille quelques minutes, même si c'est la nuit, pour se présenter, pour dire que l'arrêt est chargé, qu'on a beaucoup de travail, pour dire que on s'occupe du patient, que les médecins et les infirmiers sont à son chevet, mais qu'on n'a pas forcément le temps, compte tenu de la charge de travail, d'informer. Mais au moins, les gens rentrent à la maison ce soir-là avec l'idée qu'ils ont vu quelqu'un. Et ça remplace les smartphones, qui apportent une information qui est assez détournée. Donc ça, c'est la première chose, c'est une information informelle, relativement rapide, à l'admission. La deuxième, elle se fait dans un périmètre de 24 heures après l'admission, et elle comprend des éléments factuels, qui sont le diagnostic, les traitements qui ont été entrepris donc depuis la veille, et une évaluation du pronostic qui peut comprendre des éléments d'incertitude. Donc les traitements, le diagnostic, c'est donc la maladie aiguë, c'est une pneumonie, c'est une infection grave, c'est une insuffisance cardiaque, c'est une insuffisance rénale, et il faut pas aller très loin. Globalement, ce qu'on se met comme perspective, c'est que les familles aient à peu près une notion du diagnostic qui corresponde à celle de l'externe. Quel est l'organe malade et quel est globalement le mécanisme qui rend l'organe malade, une infection, une insuffisance ou autre chose, ou une allergie. Sur le plan des traitements, il faut tout simplement décrire l'ensemble des traitements qui sont donnés de façon toute simple. Et sur le plan du pronostic, il faut donner des éléments d'orientation en disant bien sûr, sauf si c'est caractéristique, par exemple ça peut ne jamais être grave, on peut admettre un malade pour un pneumothorax ou pour quelque chose de simple, ou à l'inverse, si c'est très grave, eh bien, sauf si on est dans ces situations-là, on peut, où il n'y a ni mort prévisible, ni mort imminente, eh bien, il faut rester dans l'incertitude en disant qu'on a besoin de la réponse au traitement. Et c'est à ce moment-là qu'on introduit l'entretien de J3. Et cet entretien de J3, il doit être à l'inverse formalisé et non pas improvisé. Donc voilà, dans les 24 premières heures, on finit par introduire l'entretien de J3. Cet entretien de J3, il est fixé à un moment qui convient à la famille. Ça peut être J4 d'ailleurs, ça peut être J2. Et on demande à la famille si elle veut que quelqu'un d'autre soit là. Et dans l'entretien, il est, comme dans tous les entretiens, préférable qu'il y ait médecin et infirmier. Il ne faut pas qu'il y ait un nombre démesuré de l'un par rapport au nombre de gens de la famille. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, le médecin et l'infirmier, le chef et l'interne, et l'aide-soignante et l'élève infirmière devant une dame toute seule qui vient voir son proche en réanimation. Voilà, il faut qu'il y ait une espèce d'équilibre. Cet entretien qui est organisé, il est dans un endroit qui est... Alors nous recommandons qu'il soit dans la pièce des familles, mais il peut très bien être dans un bureau. Il doit durer le temps de reformuler qui était le malade, quelles étaient ses maladies, quelle est son histoire médicale, et par exemple s'il a une maladie chronique... On sait que, par exemple, près de 15 à 20% des malades qui ont une maladie chronique ont de façon formelle ou informelle des directives anticipées, c'est-à-dire ont eu l'occasion de discuter avec leur équipe soignante, les médecins qui les suivent ou leur famille, ce qui se passerait s'il leur arrivait un pépin. Il faut savoir quelle est la relation entre le membre de la famille et le patient, et il faut savoir quel est leur niveau de proximité. Vous pouvez être le frère d'un patient sans l'avoir vu depuis un an. Et donc c'est important de restaurer des relations qui existent et de ne pas aller au-delà de ce qui existe. Cet entretien formalisé, il y a quelques recettes. La première, c'est que la famille doit parler autant que les médecins. Elle doit pouvoir ventiler ses émotions et poser des questions. La première étape, c'est une étape de reformulation. Qu'est-ce qu'on vous a dit depuis que le patient est en réanimation? Et donc on fait du tel ask tel, donc on a informé, maintenant on demande ce que la famille a compris, et ensuite on corrige l'information en donnant des éléments complémentaires ou en rectifiant quand on voit que la famille n'est pas dans la cible. La deuxième chose après la reformulation, c'est donc d'annoncer les éléments factuels, basé sur ce que savent déjà les familles, et d'aller du coup vers le pronostic, puisque comme on est à J3, en général dans les pathologies de réanimation, bien sûr c'est pas le cas pour toutes les pathologies, eh bien on a déjà des éléments de réponse aux tests thérapeutiques. Et on est en mesure de dire que pour une méningite, pour une pneumonie, pour un sepsis grave, pour telle ou telle maladie aiguë de réanimation, on est en mesure de donner des perspectives relativement raisonnables du pronostic. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va comprendre ce qu'attend la famille de nous et quelle relation elle veut avoir avec nous. Un exemple simple, si c'est un monsieur qui vit avec la patiente qui est en réanimation depuis 30 ans et qu'ils ont une proximité importante, c'est dans ce contexte-là qu'on va leur proposer de participer aux soins. Si ce sont des gens qui sont très liés, mais pas forcément qui vivent ensemble ou pas forcément qui ont une certaine intimité, vous n'allez pas me demander à un de mes copains, si je suis en réanimation, de me faire un shampoing, puisqu'il ne me le fait pas d'habitude. À l'inverse, s'il connaît mes valeurs ou si c'est ma personne de confiance, il peut vous dire ce que j'aurais répondu si on m'avait posé la question à moi. C'est ce que les Américains appellent le surrogate decision maker. Cet entretien, il ne faut pas le finir n'importe comment, et la clôture est très importante. Elle comprend deux éléments. Elle comprend des éléments qui sont les silences. Il faut voir la famille, faire un peu de communication non verbale, sans en dire quoi que ce soit, et bien leur donner le sentiment qu'on élicite des questions par le regard. Et donc la famille va prendre 10, 12, 15 secondes, ça paraît très long, mais ça ne l'est pas, et elle va finir par poser la question qui vraiment est très importante pour elle, et surtout il ne faut pas rater l'occasion de répondre à cette question, ce qui s'appelle une missed opportunity. Et puis à la fin, il faut dire, avant qu'on arrête cet entretien, est-ce que vous avez encore des questions à poser et donner la perspective de l'après, c'est-à-dire si jamais d'autres questions n'ont pas été posées, n'hésitez pas à venir vers l'équipe et on vous reverra et on tentera d'y répondre. Donc c'est quand et c'est comment, mais le quand est très important.
Deuxième question, faut-il d'emblée annoncer la menace du pronostic vital ?
Alors il y a des éléments de réponse dans la précédente question, c'est-à-dire que d'emblée on ne peut pas dans la majorité des cas, puisque immédiatement après l'arrivée en réanimation, on n'a pas encore tous les éléments qui permettent d'évaluer le pronostic de façon raisonnable. Donc d'emblée, probablement que c'est souvent impossible, ou quand ça l'est, ça veut tellement dire que le décès est imminent qu'il faut le faire. Donc quels sont les pronostics qu'on peut annoncer d'emblée ? C'est par exemple un arrêt cardiaque chez un patient très âgé qui était en perte d'autonomie, qui n'est pas un arrêt cardiaque d'origine cardiaque, qui n'est pas une fibrillation ventriculaire, qui a été massé longtemps, pour lequel le no flow et le low flow sont incompatibles avec une chance raisonnable de survie sans séquelles, chez un malade qui a 80 ans et plus et qui était en perte d'autonomie. Là, oui, puisqu'il y a besoin de ne pas d'aller vraiment commencer une stratégie de communication de fin de vie pour éviter l'acharnement thérapeutique. Donc là, en effet, c'est au moment où on voit la famille pour la première fois qu'il faut annoncer d'emblée le pronostic. On peut aussi, quand le pronostic est très bon, c'est-à-dire que la réanimation n'est qu'un chaînon dans la prise en charge d'un malade un peu compliqué, il y a des malades qui ne peuvent plus être gérés dans l'hôpital moderne la nuit dans des étages, dans les salles de médecine, et on les prend en réanimation pour un monitoring, par exemple une infection sévère ou la substitution potassique dans certaines conditions ou bien un traitement qui a besoin d'être bien surveillé comme des anticoagulants, eh bien là on peut annoncer que le pronostic il n'est pas vital et qu'il est plutôt lié à un besoin de surveillance que la structure ne peut pas offrir 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dans les autres situations qui ne sont pas aux extrêmes, qui ne sont pas caractéristiques, je suggère vraiment de garder les trois morceaux, c'est-à-dire dans les 24 premières heures, de donner des éléments pour que les gens se fassent une idée du chemin que le patient va emprunter. Par exemple, il est important de leur donner l'image du malade qui guérirait. Imaginez que vous ayez une méningite bactérienne, une méningite purulente chez une patiente âgée. On sait que les séquelles neurosensorielles, cognitives et la mortalité sont bien au-delà de 50% à cet âge-là, surtout si c'est une maladie comateuse. Eh bien, il faut bien expliquer à la famille que pour eux, les éléments à surveiller dans les jours qui viennent, c'est ni les scopes qui sont du soin, ça n'est pas les pancartes qu'elles ne peuvent pas comprendre, ça n'est pas les bruits qu'elles entendent autour d'elles, mais c'est vraiment la capacité du malade à leur répondre et à se réveiller. Et on dit très clairement, vous voyez, si dans les jours qui viennent, il peut se réveiller et répondre aux questions qu'on lui pose, il est probable que le pronostic neurologique sera bon. Mais sans ça, on sera en grande difficulté à cet âge, compte tenu de la perte de ou des comorbidités, etc., etc. Donc je recommande de ne pas aller vers une annonce du pronostic d'emblée, sauf dans la situation caractéristique.
Troisième question, comment impliquer les proches dans la prise en charge du patient ?
Alors c'est une question importante. Tout d'abord, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de fond. Pourquoi impliquer les familles dans les soins ? Et là, on n'est pas dans les décisions médicales, mais dans les soins. C'est parce que les familles, quand on les interroge dans des entretiens semi-structurés et qu'on fait de la recherche qualitative, une chose qui est importante pour les familles, c'est de se rendre utile pour le patient. Et en effet, il y a un certain nombre de soins, par exemple masser ou éventuellement participer à la toilette, ou pour certains patients participer au repas et à la nutrition, ou apporter de la musique, ou éventuellement faire de la lecture. Eh bien, c'est un soin que la famille peut trouver comme important, c'est-à-dire qu'elle se trouverait, elle se sentirait utile et considérerait qu'elle participe à la guérison. Alors, comment faire ? Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le climat de votre service de réanimation. Il faut que vous puissiez travailler dans un service dans lequel infirmiers et médecins sont en harmonie. Les soins sont faits par les médecins et les infirmiers, mais quand même beaucoup plus par les infirmiers, qui sont beaucoup plus dans les chambres des malades, puisqu'ils n'ont que 2 ou 3 patients. Et donc, ils doivent être actifs dans la démarche d'impliquer les familles dans les soins. Ils doivent être actifs, voire proactifs, c'est-à-dire qu'ils doivent aller vers les familles pour les inciter à participer aux soins, mais aussi les aider à le faire et bien sûr sécuriser ces soins. Je pense que en dehors d'un malade trachéotomisé, il n'est pas question de demander à une famille d'aspirer un malade en réanimation. D'abord, ça n'est pas un soin que la famille comprend et elle ne perçoit pas ça comme un soin. À l'inverse, il y a des soins que la famille comprend. Alors comment ? Je vais donner 2 pièges à éviter et 2 points sur comment faire que ce soit faisable. Le premier piège à éviter, c'est de ne pas souhaiter restaurer une relation normale entre la famille et le patient. Il faut bien s'assurer que les soins qu'on va proposer à la famille de participer pour le patient sont des soins qu'elle aurait pu faire, que la famille aurait pu faire à la maison. Par exemple, masser, par exemple, faire un shampoing. Si vous êtes devant 2 frères qui sont très pudiques ou devant 2 copains ou devant des personnes qui sont relativement éloignées, eh bien, ça n'est pas restaurer une relation que de faire un soin comme celui-là. Donc là, on peut proposer, suggérer d'apporter de la musique que l'ami savait que le patient aimait ou de faire de la lecture. Donc ça, c'est la première chose, ne pas tomber dans ce piège. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de faire quelque chose contre l'avis de l'équipe soignante. Parce que dans ce cas-là, l'équipe soignante va abandonner le malade, non seulement sur le plan de la surveillance pendant que la famille est là et fait le soin en question, mais aussi de façon générale, c'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de rejet et qui pourrait nuire aux patients d'après, mais aussi à la relation entre les médecins et les infirmiers du service. Deuxième chose, si vous souhaitez faire participer la famille aux soins, faites une procédure écrite. Cette procédure, elle doit circuler dans le groupe de travail médico-paramédical. Ensuite, elle doit être affichée, on va dire pendant 1 semaine. Les gens peuvent venir et mettre des suggestions et on considérera au bout d'un moment qu'elle est validée dans l'équipe. Et c'est la procédure qui se fera. Cette procédure, elle doit comprendre des éléments de sécurité. Il est hors de question de prendre des risques, mais en même temps, des éléments de faisabilité. Et je trouve bien qu'il y ait une EVA de satisfaction côté famille et côté soignant pour continuer à évaluer et s'assurer que les choses vont dans le bon sens. Et la deuxième chose, c'est de débriefer. C'est important de le faire quand vous commencez quelque chose de nouveau de ce type dans votre service. C'est d'aller à la réunion médico-paramédicale hebdomadaire, c'est-à-dire que les médecins et les infirmiers s'assoient ensemble 1 fois par semaine. Et ça veut dire 2 fois pour les médecins, puisqu'en fait, c'est 2 équipes qui tournent, si vous êtes en 12 heures, eh bien, ils vont s'asseoir et ils vont faire le point en disant comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé, comment il faut en changer, est-ce qu'il faut adapter la fiche, etc. Voilà les éléments qui sont importants pour réussir ce genre d'initiative.
Dernière question, quels sont les 3 articles que vous recommanderiez à un étudiant en réanimation ?
Alors, si je devais recommander 3 articles... Le premier est celui du professeur Curtis à Seattle, et c'est un papier qui est un essai randomisé. En fait, il est en 2 morceaux. Il y a un papier publié en 2011 et un papier publié en 2016. Et l'idée est d'avoir dans les services de réanimation ce que les Américains appellent un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le lien entre le malade et la famille d'un côté et l'équipe soignante de l'autre, qui va expliquer l'information, qui va expliquer quelles sont les possibilités, qui va inciter des questions auprès de la famille et qui ensuite va chercher le médecin pour que la famille puisse les poser. Et ce facilitateur, eh bien, globalement, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup puisqu'il permet de réduire les symptômes d'anxiété et de dépression chez les familles des malades. Ce papier a été publié dans l'AJRCCM en 2016. Le deuxième papier que je vous recommande de lire a été aussi publié dans l'AJRCCM. C'est un papier, c'est une revue d'experts sur le respect de la dignité des malades en réanimation. Il est publié par Sam Brown, qui travaille à Salt Lake City et qui est vraiment quelqu'un qui est très actif dans les initiatives, on va dire, qualitatives en réanimation. Et c'est un papier qui rappelle les principes élémentaires pour que le respect de la dignité des malades soit mis en avant. Le troisième papier est un article qualitatif du groupe Famirea. Il est publié dans Critical Care Medicine en 2017. Et c'est un papier qui est issu d'une analyse qualitative d'entretien semi-directif avec les familles des malades qui ont reçu une lettre de condoléance après le décès d'un patient en réanimation. Et comme vous le savez, ce papier qui avait été publié dans Intensive Care Medicine l'année d'avant avait montré que paradoxalement, les familles qui avaient reçu cette lettre de condoléance ont plus de dépression et plus de stress post-traumatique que les familles qui n'ont pas reçu de lettre de condoléance. Donc ça nous a quand même beaucoup interpellé. Et donc les éléments qualitatifs ont été de comprendre que finalement ces lettres de condoléances étaient extrêmement bien perçues par la famille, mais que tout simplement elles avaient prolongé et modifié les étapes du deuil, si bien que quand on les avait appelées à J90, eh bien on avait mesuré des symptômes dépressifs et de PTSD plus importants. Ce papier dans CCM a aussi une particularité, c'est que maintenant les journaux médicaux et en particulier les journaux de réanimation, mais aussi le JAMA, aussi les revues générales, publient de la recherche qualitative sur des questions liées à la qualité de l'information et à la communication avec les familles. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Merci.